La marche du monde.
Pour les Allemands, les cheminots, on était tous des terroristes et des communistes. Pour certains, hein, c'était plus pour des cheminots allemands, c'était pour les Allemands, là, l'occupation, l'armée d'occupation. On était tous communistes, terroristes. Mais pas d'autres.
Antoine Guérin, en gare de Beauvais, Robert Basquiat en Bourget, Hélène Lévesque à Reims, Léon-Marcel Bénil à Bobigny ou Vincent Vermuseau en Algérie, tous ont dû travailler avec et pour les Allemands dans le climat tendu de l'occupation. Dans l'exposition « Voix cheminote » présentée aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, ils nous disent leur quotidien dans les gares et dans les trains entre résistance et collaboration.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Comment les cheminots ont-ils vécu l'occupation allemande entre 1940 et 1944, alors que l'entreprise publique française des transports ferroviaires a eu sa part de responsabilité dans la déportation des Juifs et dans le fonctionnement de la France occupée? C'est ce que nous essaierons de comprendre à travers ces voix cheminotes, joli nom de la première exposition d'archives sonores aux Archives nationales, dont vous êtes l'heureuse commissaire Cécile Auchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'heureuse commissaire donc de cette grande première, puisque ce sont des archives sonores à notre plus grand plaisir sur RFI que nous allons entendre tout au long de cette édition de la Marche du Monde. Cécile Auchard, vous êtes également historienne. Alors qu'est-ce que les témoignages sonores des cheminots apportent à la connaissance du rôle de la SNCF dans la Seconde Guerre mondiale ?
Ces témoignages nous apportent la mémoire, les souvenirs, les discours de ces jeunes cheminots et cheminotes qui ont donc vécu et travaillé au cours de ces années de guerre et d'occupation entre 1939 et 1945. Ils nous permettent de compléter les archives papier qui nous donnent souvent des renseignements d'ordre administratif, de carrière, les documents de base du travail de l'historien. Et donc, c'est la vie au quotidien, la vie personnelle, professionnelle de ces hommes, de ces femmes, et la façon également dont leurs enfants, leurs petits-enfants nous racontent la vie de ces personnes. C'est tout cet aspect sensible qui apparaît à travers ces témoignages qui ont été recueillis il y a presque 2 ans maintenant.
Alors ces hommes et ces femmes, ils sont assez jeunes à l'époque, ils ont entre 15 et 30 ans. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur première fois, leur première expérience professionnelle. Alors rappelons que les accords entre le gouvernement de Vichy et l'occupant nazi prévoient une gestion de la SNCF par la France sous la surveillance des Allemands. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors la convention d'armistice, puisque c'est cela dont il s'agit, prévoit que oui, le chemin de fer est mis à disposition des Allemands pour tous ces transports, que ce soit pour le ravitaillement, pour les marchandises en destination de l'Allemagne, pour les transports de permissionnaires, de soldats, et ensuite les transports de déportés, de répression, de déportés, de persécution. La SNCF est mise d'une certaine façon au service de l'occupant allemand.
Donc la SNCF a toujours ses dirigeants français, son personnel français, mais au service des directives allemandes.
Et aussi du personnel allemand, puisque dès l'arrivée des Allemands, donc après la défaite de juin 40, des cheminots allemands arrivent également en France. Ils sont environ 4000 au début. Et des structures allemandes ferroviaires se superposent aux structures françaises. Et dans chaque grand dépôt, grand atelier, il va y avoir un chef allemand à côté du chef français, au niveau du personnel de direction et d'encadrement, et quelques aussi des cheminots allemands qui vont travailler aux côtés des cheminots français.
Alors dans le premier témoignage que nous allons entendre, on va entendre parler notamment d'un PC. Alors c'est quoi ? Poste de contrôle, poste de commandement ?
Poste de commandement, oui.
Poste de commandement. C'est donc ainsi que les Allemands sont présents dans le quotidien de chaque gare et de chaque poste de commandement. Écoutez le témoignage d'Antoine Guérin, cheminot en gare de Beauvais. Il peut décrire le fonctionnement du PC.
J'avais 17 ans et un jour, on m'a dit, à Beauvais, le chef de gare recrute du personnel. J'ai fait une demande, j'ai été accepté. Alors, j'étais toujours à l'école et je suis rentré donc à la gare de Beauvais le 14 juin 1937. Alors, je suis rentré comme élève bureau à l'essai. Je suis rentré au PC, c'est un organisme où on travaille en 3-8, qui s'occupe de la mise en place, de la direction, surtout de la circulation des trains, tout ça. Il y a une différente qui appartient à la région. Ici, c'était la région d'Amiens, avec un PC à Amiens. À côté du PC, donc, à l'époque, il y avait le PC, mais il y avait aussi, en parallèle, le PC allemand, qui lui donnait ses ordres. La circulation des trains, c'était programmé. C'était surtout, au départ, les Allemands qui l'ont installé pour suivre leur mouvement. C'était leur trafic à eux qu'il fallait, au départ, surtout suivre. Alors, ça avait des noms de codes, de toutes sortes. Hein. C'est surtout un trafic militaire, d'hommes, de ravitaillement, de matériel, de toutes sortes. Vous savez que dans les cheminots allemands de l'époque, certains étaient formidables. Et d'autres où il fallait très se méfier. Et faire bien attention. Il y avait l'inspecteur allemand, Schneer, qui était un vrai nazi. Hein. Et puis, oh, je ne sais pas, moi, peut-être pas plus de 3-4. Eux, ils voyaient ça administrativement, puis ils recevaient les ordres à transmettre. Hein.
Eux, c'est ils recevaient leurs ordres de Bruxelles.
Ah oui, 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 oui. Plusieurs fois par jour, il y en a toujours un qui venait voir ou chercher un papier ou demander un renseignement ou donner un ordre ou je sais pas. Hein. Souvent, ils parlaient français. Hein. En principe, on les comprenait assez bien. Entre autres, un cheminot allemand qui était un Alsacien.
Les soldats allemands, c'est une présence pesante pour Hélène Lévesque, garde-barrière à Reims à partir de 1942.
Ça se passait pas trop mal, on était obligé de rien dire, hein. Ils étaient là qui faisaient la garde avec leurs fusils. C'est pas ça qui manquait. Ah, ils venaient souvent. Ils voyaient les passages, ils voyaient les gens. Mon mari, il a été nommé à Nuisement-sur-Caule. Alors j'étais obligée de le suivre. Et puis après, un jour à la barrière de Nuisement-sur-Caule, le chef de chantier, qui était cantonnier, chef, il a dit à mon mari, il dit, j'ai une garde-barrière qui va s'en aller en retraite. Quand on venait de se marier, on n'avait pas d'argent. Il dit, si tu veux, ça mettra du beurre dans les épinards. Eh ben voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Comme j'avais demandé mon changement, on m'avait offert des postes, il y en a un à Strasbourg, l'autre à Muisant. Oh, je ne les ai pas acceptés. J'ai dit, moi, je veux me rapprocher de ma famille. Alors ça, c'est fait que... Il y a eu un passage à niveau à Reims. Et c'est là que je suis arrivée en 42. Il y a eu des résistants qui ont voulu passer ma barrière. Je les ai ouverts. Ils m'ont donné 5 kilos de sucre. Mais c'était pas pour ça. Hein. C'était pour les résistants. J'ai dit, je vais vous ouvrir. Et puis c'est tout. Ça se faisait en douce. Tout ça. Mmh. Mais il fallait encore surveiller que les garde-voies ne viennent pas à passer. On s'arrangeait qu'ils étaient partis un peu loin. Et à ce moment-là, je leur disais, vous pouvez passer, je vous ouvre.
La voix chuchotée d'Hélène Lévesque, 102 ans, extraordinaire témoignage. Et Antoine Guérin, 96 ans. Ils sont tous les deux dans l'exposition Voix cheminote, dont vous êtes la commissaire, Cécile Auchard. Hélène et Antoine évoquent leur confrontation aux Allemands dans leur travail à la SNCF. Comment vous pourriez qualifier la façon dont les cheminots français voient les cheminots allemands?
Alors, il a plusieurs attitudes. Tout n'est jamais ni blanc ni noir. Mais ce qu'on a appris par l'intermédiaire du recueil de ces témoignages, c'est que, comme le dit Antoine Guérin, oui, il y avait des cheminots allemands qui étaient des vrais salauds, des vrais nazis, qui dénonçaient, dont il fallait se méfier. Mais finalement, pour certains d'entre eux, les relations étaient non pas cordiales, mais ils travaillaient parfois côte à côte sur le terrain et fallait faire avec. Ils étaient là, comme certains nous l'ont dit, n'ont pas forcément eux non plus demandé à être là. Ils étaient loin de leur famille, les Allemands. Et tous étaient cheminots, il y a quand même...
Voilà, est-ce qu'il y avait un effet de corporation, d'appartenir au même métier finalement, de connaître les mêmes gestes?
Parfois, oui. En effet, ça, on l'a entendu. Alors aussi bien dans le cas des cheminots allemands en France que des cheminots français en Allemagne, puisque un certain nombre de cheminots sont partis... travaillé dans le cadre du STO, des lois sur les réquisitions en Allemagne.
Cécile Auchard, est-ce que le fait d'être cheminot en zone libre ou le fait d'être cheminot en zone occupée changeait la donne dans les relations avec les cheminots allemands?
Tout à fait, puisque en zone libre, les Allemands n'arrivent qu'après novembre 1942 et l'invasion de la zone libre suite au débarquement américain en Algérie. Donc jusqu'en 1942, les Allemands ne sont pas là. Donc le fonctionnement du chemin de fer continue de façon comparable à ce qui se passait avant-guerre. Par contre, en zone occupée, là, c'est nettement différent, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais dont parle Antoine Guérin, puisqu'administrativement, elle était rattachée à l'autorité allemande à Bruxelles.
Voilà, c'est pour ça qu'il évoque Bruxelles.
Et puis, forcément, la région parisienne où beaucoup d'Allemands étaient présents, l'est du pays, hors Alsace-Moselle, rattaché au Reich. Donc oui, cette présence allemande, notamment dans les grands lieu ferroviaire, est importante et souvent pesante, même si au quotidien il y a des nuances à apporter. On nous a souvent dit qu'on pouvait discuter quand on était en tête à tête avec un Allemand. On pouvait parfois se laisser aller, pas forcément à des confidences, mais quand même de temps en temps un petit peu, leur montrer des photos de famille en disant voilà, ma femme et mes enfants sont en Allemagne, moi je suis là, c'est pas toujours facile. Donc c'est tout ce nuancier d'attitude, d'opinion et de situation que permet aussi de révéler ces témoignages.
Alors les cheminots sont aussi des témoins des conséquences de l'occupation, à savoir de la déportation, puisque les juifs et les résistants français ont été déportés par train jusqu'en Allemagne et jusqu'en Pologne. Ils sont donc partie des gares françaises qui fonctionnent grâce à des cheminots français dirigés par des chefs ou des inspecteurs allemands, on l'a bien compris. Et Robert Basquin, il est à la gare du Bourget et il a assisté à l'embarquement de juifs dans des wagons sans vraiment comprendre ce qui se passait et pouvoir vraiment faire quelque chose.
Pour aller au dépôt du Bourget, il fallait descendre à la station Le Bourget, et puis il fallait suivre les voies. Et alors là, à chaque fois que je passe, j'ai toujours un mauvais souvenir, parce que des fois, le matin, à 6 heures du matin, il y avait des wagons, deux wagons de marchandises, et il y avait un tas de monde, c'était des juifs qu'on embarquait. Et j'ai assisté à ça, j'ai vu les Allemands qui les faisaient monter. Alors, c'était à 6 heures du matin, à 14 heures, il y en avait un autre, c'était pareil. Moi, je me demandais, qu'est-ce qu'il y a. On m'a dit, non, c'est des gens, on les emmène pour aller travailler à Compiègne. Oui, en fait, c'est seulement après-guerre que je me suis rendu compte que j'avais assisté à l'embarquement des Juifs dans les wagons de marchandises poussés par les Allemands. Bien souvent, quand j'y passe, je pense à ces pauvres Juifs qu'on embarquait. Ça m'a marqué, mais après coup. Sur le moment, on parlait pas tellement de juifs, vous savez, à l'époque. On me disait, non, c'est des gens, au contraire, ils sortent de prison, on va les faire travailler, ou je sais pas. On n'en parlait pas, on n'arrivait pas à savoir ce qu'il y avait. Vous voyez bien les Allemands armés qui étaient des civils, qui poussaient des civils dans le wagon, mais c'est tout. Je savais même pas que c'était des juifs. Jamais on avait parlé de juifs, jamais on parlait de juifs. Moi, à l'école, jamais il y avait des juifs à l'école, j'en savais rien. On a commencé à en parler sous Pétain. Ben, c'est quand on a commencé à avoir su aux juifs des affiches. On dit, tiens, pourquoi on ne s'occupait pas tellement, mais... Et puis, il y a eu quand même le Veldiv, quand même, là, on a dû en parler. Je pense que j'étais encore en France en 1942, ça. À part les wagons du Bourget, je ne savais même pas où ils allaient, mais on n'entendait pas parler de camps de concentration en Allemagne. J'ai appris tout ça en 1945, quand j'étais à Casablanca, et les Alliés avaient débarqué là-bas, et c'est là où on a commencé à savoir ce qui s'était passé. Autrement, on ignorait tout.
On ignorait tout, nous dit Robert Basquin. En tout cas, Robert Basquin ignorait tout. Mais à partir de quel moment les cheminots savent ce que deviennent les Juifs? Et est-ce qu'il faut distinguer, évidemment, avec la direction de la SNCF?
Ils savent ce qu'ils deviennent, probablement comme la majorité de la population française, après la libération des camps de concentration et d'extermination en 1945. Sinon, ils n'ont pas plus les moyens de savoir ce qui se passe que le français lambda, si j'ose dire. Non, ils assistent aux embarquements, ils voient les trains passer pour ceux qui sont sur les lignes, ils récupèrent, le cas échéant, les petits mots lancés à travers les wagons. Mais la destination, ils n'en ont absolument aucune idée.
Ils évoquent plutôt le fait de juifs qu'on envoie travailler.
Parce qu'il n'y a que ça qui est imaginable. De toute façon, on ne peut pas penser qu'il puisse arriver autre chose.
Alors, le rapport commandé par la SNCF à l'Institut du temps présent et remis en 1999 par Christian Bachelier sous la direction du grand historien Henri Rousseau a montré que la direction de la SNCF comptabilisait les convois de juifs sous le nom de trafic spéciaux. Alors, qu'est-ce que la direction de la SNCF savait à l'époque ?
Elle savait qu'elle devait mettre à disposition des Allemands les wagons qui étaient demandés. Je ne pense pas qu'elle savait, elle non plus, où pouvaient aller ces trains. D'autant que pour ce type de convoi, l'équipe de conduite française s'arrêtait à la frontière entre la France et le Reich. Donc à Honville, Nauvéan, la nouvelle frontière en Alsace-Moselle. Là, c'était des équipes allemandes qui prenaient le relais. Donc aucun mécanicien chauffeur français n'est allé jusqu'à Auschwitz, jusqu'à Mauthausen, jusqu'à Buchenwald.
Voilà, c'est très clair. Le personnel français travaille dans les frontières de l'Hexagone telles qu'elles étaient évidemment définies à l'époque.
Tout à fait. Alors on trouve des photos de wagons estampillés SNCF sur certaines donc photographies d'époque qui amènent les déportés de toute l'Europe dans les camps de concentration et d'extermination, mais parfois ce sont aussi des wagons qui ont été récupérés par les Allemands au moment de leur arrivée en France puisqu'ils ont prélevé du matériel français, donc ces wagons SNCF ont pu circuler à ensuite dans toute l'Europe allemande, entre guillemets.
En ce qui concerne les nombreux entretiens réalisés que l'on peut découvrir grâce à cette exposition Voix cheminote, entretien auquel vous avez personnellement participé, Cécile Auchard, est-ce que ça, c'était un sujet difficile à aborder ?
En fait, pour ce genre de questions, on s'adaptait selon l'interlocuteur. On se disait qu'il n'est pas nécessaire de poser cette question, par exemple, à quelqu'un qui était en zone sud et qui a quasiment pas vu un cheminot allemand. Ensuite, évidemment, un cheminot qui était au Bourget, qui était à Bobigny ou à Chalon-sur-Marne, Chalon en Champagne actuellement.
C'est-à-dire dans la destination par lesquelles ces trains de la mort passaient.
C'était la ligne directe vers l'Allemagne. Donc là, on posait cette question. Et finalement, la plupart du temps, ce sont les témoins eux-mêmes qui abordaient le sujet, puisque c'est des souvenirs traumatisants pour eux aussi d'avoir vu ces convois. Ça fait partie aussi du travail de l'enquêteur de s'adapter à son interlocuteur ou interlocutrice.
Grâce à l'initiative de l'association Rail et Histoire, qui a recueilli plus de 400 heures d'entretien, nous pouvons entendre les voix cheminotes, témoignages sonores de l'exposition dont notre invitée Cécile Auchard est la commissaire. Voix cheminotes, c'est jusqu'au 20 juin aux Archives nationales sur le site de Pierre Fitte sur Seine et juste après les infos sur RFI.
Ma grand-mère était garde-barrière. Tous les garçons du pays étaient amoureux de son teint couleur de lys et de ses yeux bleus. Avec son drapeau, sa petite trompette, son grand chapeau, son joli corsage à carreaux, elle fermait le passage à niveau. Avec ton drapeau, ta petite trompette, ton grand chapeau, t'étais la reine des passages à niveau entre Paris et Bordeaux. Entre Paris et Bordeaux.
La marche du monde.
À l'époque, en pleine résistance, personne ne savait si son voisin était résistant ou pas. Vous connaissez pas ce mot-là, résistant, non. Monsieur Bleu est sous-chef en garde Amiens. Moi, personnellement, qui travaillais en garde Amiens, je ne savais pas qu'il était dans la résistance. C'est pas vrai, ça. c'est parce qu'il a été dénoncé. Évidemment, s'il a été arrêté par les Allemands, c'est parce qu'il a été dénoncé.
La voix d'Antoine Guérin est l'une des voix cheminotes de l'exposition présentée aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Et c'est une première, puisque pour la première fois, les Archives nationales présentent une exposition entièrement sonore. Âgés de 15 à 30 ans, Antoine Guérin, Hélène Lévesque et les autres sont entrés à la SNCF avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont été confrontés aux Allemands pendant l'occupation. L'exposition Voix cheminotes bouscule les idées reçues et montre combien il faut sortir du cliché résistant ou collabo pour comprendre leur vie quotidienne à la SNCF de 40 à 44.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde avec Cécile Auchard, commissaire de l'exposition Voix cheminotes. Et vous avez d'ailleurs monté l'exposition avec l'association Rail et Histoire. Pourquoi avez-vous fait ce choix, Cécile Auchard?
En fait, la collecte de témoignages a été réalisée par l'association Rail et Histoire, donc un appel à témoignages lancé par la SNCF.
Oui, c'est ça, c'est une initiative au départ de la SNCF.
Tout à fait. À la fin de l'année 2011, la SNCF a lancé cet appel à témoignages en direction de ses retraités pour continuer le travail de recueil d'archives orales lancé depuis le début des années 2000 par l'association Rail et Histoire. Et dans le cas présent, pour conserver la mémoire des cheminots pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc vous avez fait une exposition à partir de 400 heures de témoignages. On écoute 2h30 de témoignages dans l'expo. Et je disais que c'est une première, et j'insiste, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les témoins, on les entend. Il y a tout un tas de procédés d'ailleurs pour les entendre. Comment ça se passe dans l'expo?
Stéphanie Colonvillet et Stéphane Lehaudet, qui ont réalisé tous les montages sonores pour l'exposition, ont prévu différents dispositifs d'écoute. Alors, des écoutes au casque, de montage de 2 à 4 minutes, des écoutes au casque assis cette fois-ci sur des bancs, des montages de 12 à 15 minutes. Il y a aussi des introductions sonores à chaque partie qui comprennent des archives de l'époque, des reportages de radio, quelques chansons, le Radio Paris-Monde de Pierre Dac, et puis un son aérien d'ambiance qui est un montage d'une heure et demie environ, et de temps en temps surgissent des sons de derrière les voiles. Les différentes parties sont entourées de voiles sur lesquelles sont projetées des images de lieux et d'installations ferroviaires.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Alors Cécile Auchard, nous avons déjà évoqué les relations des cheminots français avec les cheminots allemands. Nous avons évoqué le départ des Juifs pour les camps de concentration. Je vous propose maintenant d'entendre la voix de Léon-Marcel Bénil. Alors lui non plus à Bobigny, il ne sait pas en 1942 qui sont ces civils que des militaires allemands poussent dans les wagons. Pourtant, il voit que ce sont des gens en difficulté, maltraités par l'occupant, et il essaie de les aider comme il le peut.
Le camp de Drancy, il y a eu 43 convois qui sont partis de Drancy. Drancy, c'était une ville avec des moutons. Quand ils chargeaient les moutons, il y avait deux wagons. Et quand ils chargeaient les Juifs, il y avait un train. Et il y en a qui étaient obligés de monter comme ils pouvaient dans les trains. Il y a un dénommé Noisette, il a vu comment ça se passait. Il n'y avait pas de monticule pour monter dans les wagons. Hein. Quand on savait que c'était des wagons comme ça, on allait foutre des coups de couteau dans les boyaux de frein avant qu'ils soient chargés. Ce qui fait que quand le mécanicien il faisait le frein, il était bien embêté parce qu'il ne pouvait pas. On était obligé de faire venir les visiteurs. Et les visiteurs, ils savaient pourquoi. Et ils mettaient facilement 2 heures, 3 heures avant de venir. Et pendant ce temps-là, il y avait la garde. Les militaires allemands gardaient le train. Devant nous, il y avait un soldat allemand avec son fusil sur l'épaule. Je me rappelle avec Mickey, on faisait les visiteurs, on tapait dans les roues des wagons. Et puis on ramassait les papiers quand. Enfin, puis on écoutait. Hein. On entendait les gens qui pleuraient, qui criaient. Ouais. On essayait de joindre la famille, hein. Mais c'était pas toujours réalisable. Hein. On savait qu'ils s'en allaient en Allemagne, c'est tout. Mais on savait pas ce qui se passait. Hein. On a su après, en principe, ils allaient pour Paul Poy, pour le travail. Mais ils allaient demander le travail. Hein, ouais.
Les petits actes de résistance de Léon Marcel et de ses compagnons, Hélène Lévesque les a également accomplis. Elle aussi, elle a récupéré les petits papiers jetés par les prisonniers dans les wagons qui passaient à sa barrière.
C'était entre Chalon et Troyes. Il y avait juste quand même l'armée à Mailly-le-Camp. Et c'est là que les prisonniers allaient, à travers les lucarnes qu'ils avaient dans les wagons à bestiaux, jeter des papiers. Ils ont dit, il y aura des cantonniers qui ramasseront ça. J'ai ramassé mes papiers. Alors, il y en avait qui étaient lisibles, il y en avait qui n'étaient pas lisibles. Alors, un jour, je dis à moi-même, il faut faire quelque chose. Je dis, ceux qui sont visibles, on va rassurer les familles. Il faut les prévenir. Je vais aller déposer tout ça chez le maire. C'était le maire, M. Orgelin. Mais il m'a dit, madame, il dit, vous avez bien fait. Il dit, on va s'occuper de ça à la mairie. Après, moi, je ne savais pas ce qu'il devenait, mes papiers. Il m'a dit, tant que vous en aurez, vous me les ramènerez à la mairie. Et tous les soirs, quand j'allais chercher mon lait à la ferme, eh ben, je déposais mes petits billets.
Hélène Lévesque résiste, sans le savoir, j'allais dire, en déposant ses petits billets jetés par les déportés au passage à niveau qu'elle garde. C'est vous qui avez recueilli son témoignage, Cécile Auchard.
Tout à fait.
Elle est comment, Hélène?
Elle est formidable. Je l'ai rencontrée en 2012 et à l'annonce de l'exposition, elle a dit à sa fille « Je veux y aller, je veux être là, présente ». Donc elle est venue. Ça a été la vedette de la soirée de voir cette ancienne garde-barrière. Donc, elle était radieuse, elle était ravie.
Alors aujourd'hui, elle a 102 ans, mais à l'époque, elle était toute jeune, hein?
Elle était relativement jeune puisqu'elle est née donc en 1913. Donc elle a eu 30 ans en 1943. Elle a passé ses 5 années seule puisque son mari était prisonnier de guerre. Donc seule avec sa fille aînée, tout d'abord dans ce passage à niveau de Nuisement-sur-Caule, puis à Reims à partir de 1943.
Comment vous pourriez expliquer, Cécile Auchard, cette évolution de la mémoire des cheminots? Parce qu'il y a eu longtemps la figure des résistants. Et puis c'est vrai qu'avec le procès de la SNCF, il y a eu d'un seul coup cette image de la collaboration qui a écrasé l'image de la résistance. Quel sens vous mettez à cela, vous qui êtes historienne?
Ça reflète aussi l'historiographie en elle-même. Donc après-guerre, c'est surtout la résistance qui est mise en avant.
D'autant qu'il y a beaucoup de communistes à la SNCF.
Tout à fait. Et puis, on a le film La bataille du rail qui sort en 1946 et qui sert de référent pendant environ 3 décennies sur ce qu'ont été les cheminots et l'action des cheminots dans la résistance et pour la libération de la France. Donc l'évolution des recherches historiographiques avec les travaux en particulier de Robert Paxton, donc qui met en avant la collaboration.
Un Américain, grand spécialiste de Vichy.
Voilà, qui écrit la France de Vichy. Et puis ensuite, donc les procès, oui, intentés à la SNCF par rapport à la déportation des Juifs de France et qui, là, modifie l'image de l'entreprise. Et donc, certains des récits et des témoignages qu'on a recueillis ont été assez critiques envers la SNCF et notamment envers le discours de Guillaume Pepy à Bobigny en 2011. Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, a dans ce discours reconnu la participation de la SNCF tout en précisant qu'elle était requise par les autorités allemandes.
Participation de la SNCF à la déportation des Juifs vers les camps de concentration en Allemagne.
Ces cheminots se sont sentis accusés personnellement en tant qu'individu, alors que pouvait-on faire face à la déportation, comme nous disait Léon Marcel Bénil.
Une autre voix, celle de la France libre, celle qui veut rejoindre le général de Gaulle à Londres, c'est aussi celle d'Antoine Guérin que l'on écoute depuis le début de cette émission.
Certains pouvaient faire une résistance à sa façon, pas spécialement avec des armes, hein. Les wagons, c'était pas comme aujourd'hui, les roulements n'étaient pas comme aujourd'hui. Bon, à l'époque, il y avait les visiteurs, et avec la burette, au lieu de mettre de l'huile, on pouvait mettre du sable ou des graviers. Sur le moment, ça ne donnait rien, mais il est probable qu'au bout des centaines de kilomètres, ça avait donné quelque chose. Et il fallait pas se faire prendre, hein. Non. Mais l'histoire du sable, ça, c'était très facile. La nuit, c'était facile. Même un fait extraordinaire. Il y a eu un jour un déraillement sur la ligne de Bruxelles. Donc, pendant 3 jours, il n'y a pas eu de train, évidemment. La machine qui était déraillée, elle s'était enfoncée jusqu'au niveau du tablier à l'avant. Alors, pour pouvoir rétablir la circulation, fallait finir venir à grue et tati et tata, c'était un fourmi du tonnerre. On n'avait pas la possibilité de la dégager. On a donc fait passer la voie sur le côté. Et quand on a voulu le faire passer, il n'avait pas respecté le gabarit avec la tête de la machine et tout ça, volontairement bien sûr. Ben, une autre machine ne pouvait pas passer. Il a fallu encore perdre une journée, deux jours pour ripper la voie puis, pour faire passer les trains. Il n'avait pas mis le gabarit. C'était en cours. Monsieur Bleu est sous-chef en garde Amiens. Moi, personnellement, qui travaillais en garde Amiens, je ne savais pas qu'il était dans la résistance. C'est pas vrai, ça. Si on le savait, ça aurait été trop facile en tant qu'on l'aurait arrêté. Hein. Oui, c'est parce qu'il a été dénoncé. Évidemment, s'il a été arrêté par les Allemands, c'est parce qu'il a été dénoncé. Quand j'étais au PC, j'ai douté d'un gars qui travaillait avec moi. Et lui, à l'époque, il me l'avait dit. Fournissait les noms des transports de troupes, tout ça. Les transports allemands, c'est programmé, donc ça a un nom, ça a un code. Comme il était au PC, il était à même de savoir beaucoup de choses, comme moi. Hein, les heures, tout ce qu'il voulait. Ça, au PC, quelqu'un qui voulait renseigner, il pouvait renseigner. C'était des choses officielles. Mais à qui il transmettait, je ne sais pas ce qu'il en faisait, je ne sais pas. Mais il m'a dit que ça partait à Londres, c'est tout.
Voix cheminote, des témoignages comme autant de destins individuels de cheminots durant l'occupation. Mais pour autant, ne peut-on pas parler de communauté de destin, Cécile Auchard, en ce qui concerne les cheminots et les réseaux de résistants, par exemple, comme le réseau Résistance Fer?
Le réseau Résistance Fer, alors il faut bien préciser les choses. Ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est l'association Résistance Fer, donc qui est créée après la fin de l'occupation pour réunir tous les cheminots qui ont été résistants. Donc c'est une initiative notamment de Louis Armand, qui est un grand résistant à la SNCF. Mais pendant l'occupation, il n'y a pas eu un réseau spécifiquement cheminots. Les cheminots étaient affiliés à des réseaux de renseignement, à des mouvements de résistance, ou faisaient une résistance dans leur coin, entre guillemets, sans avoir jamais été affiliés à quoi que ce soit. Donc Résistance Fer, c'est une construction d'après-guerre.
Résistants ou pas, les cheminots sont aussi victimes de l'occupation, puisque de nombreux cheminots ont été prisonniers, laissant leurs femmes seules et avec très peu de nouvelles. C'est le cas d'Hélène Lévesque, dont le mari cheminot, vous l'aviez précisé tout à l'heure, est prisonnier dès 1940. D'abord prisonnier à Compiègne, il part ensuite au Stalag en Allemagne, près de Hambourg.
Mon mari, il a dit, je rentre au chemin de fer parce que il avait pas de boulot dans les vignes et tout ça. C'était en 36. Ah, mais moi, je suis rentrée après. Puis après, il a parti à la guerre parce que il a été automatiquement mobilisé au service sanitaire. Il était brancardier, il allait ramasser les blessés, il était au sanitaire. Le maire de Nuisement-sur-Caule, il m'a dit, ben, évêque, il dit, je peux pas vous donner des nouvelles. De temps en temps, j'en demandais, puis j'en demandais à la SNCF aussi. On m'a dit, non, on ne sait pas, on ne sait rien. Et puis voilà. Et après, j'ai su, par mon mari quand même, qui est arrivé, oh, ben, c'était un moment après. Il m'a dit, je suis prisonnier. Il a été prisonnier à Compiègne. Comme c'était sous le régime des prisonniers de guerre, alors ça s'est passé à peu près bien. Après, j'avais un peu des nouvelles, mais suivant Hitler, qui disait, ça sera qu'une lettre par mois. Alors, j'avais qu'une lettre par mois. Je touchais mes colis. Ah oui, la SNCF donnait des colis pour les prisonniers. C'est moi qui les envoyais au Stalag. Et puis alors, mon mari, il devait revenir comme cheminot. Et puis, du personnel sanitaire, il n'a jamais revenu. Il a été 5 ans prisonnier. Il est venu qu'au 40, au mois de mai. Oh, le dernier des derniers, le 31 mai.
Le témoignage d'Hélène Lévesque, garde-barrière, dont le mari ne rentre qu'en 1945, n'est-ce pas une exception qui confirme la règle pour les cheminots, Cécile Auchard?
Les cheminots ont été mobilisés comme tout homme mobilisable à cette époque, avec la nuance que certains ont continué à exercer leur métier sur place. Ils relevaient de l'affectation spéciale, puisque la SNCF était passée sous l'autorité de la Défense nationale au moment du déclenchement de la guerre en septembre 1939. Donc ils continuaient à exercer leurs fonctions civiles pour conduire les trains, travailler dans les ateliers, pour certains mis à fabriquer des munitions. Donc sur les cheminots mobilisés, donc envoyés sur le front, environ 38 000 sont faits prisonniers de guerre au moment de l'attaque allemande. Entre 12 et 15 000 ne sont pas transférés vers les stalags ou les oflags en Allemagne, mais placés ce qu'on appelle en congé de captivité pour là reprendre leur métier, puisque les Allemands...
Et voilà.
Ont besoin des cheminots français pour faire rouler leur train.
C'est pour ça que par rapport à d'autres Français, en général, ils sont rentrés plus tôt, même si c'est bien sûr pour être mobilisés sur leur force de travail. Mais en tout cas, pour Hélène Lévesque, c'était pas de chance, hein, puisque voilà. Son mari, à elle, est rentré qu'en 45, comme nos grands-pères, j'allais dire.
Tout à fait. Sur les 38 000 faits prisonniers, donc en 40, environ 12 000 sont encore prisonniers en 1945. Donc, ça veut dire que deux tiers sont rentrés, ont été libérés au fur et à mesure aussi au cours des années 1940 à 1945.
Hélène Lévesque, elle, est cheminote déjà, mais je dirais de façon plus générale, pour ces femmes de cheminots qui ont été faits prisonniers, est-ce que la SNCF est présente?
Là encore, ça dépend vraiment des cas. Certains, oui, on dit, on avait les colis, on envoyait du courrier, on avait des nouvelles de nos maris, de nos pères prisonniers de guerre. Et puis dans d'autres cas, c'était assez différent. Alors, est-ce que ça dépend des dirigeants au niveau local qui s'intéressaient plus ou moins au cas de ces prisonniers de guerre? Et puis sur ce thème-là, on n'a sans doute pas, nous, recueilli assez de témoignages pour pouvoir confronter les points de vue et les situations. Mais c'est vrai que dans le cas d'Hélène Lévesque, donc elle avait ses colis, elle correspondait avec son mari. Mais concernant les cheminots prisonniers de guerre, on a aussi l'exemple d'un jeune homme dont deux des frères étaient prisonniers de guerre, lui était apprenti. Et là, il n'a pas évoqué ses colis SNCF, c'est vraiment sa famille qui, tous les mois, essayait d'envoyer ce colis de 5 kilos aux deux frères, et c'était vraiment, vraiment compliqué.
Alors, on ne les oublie pas, bien sûr, hein. Il y a tous ceux qui ont été déportés en Allemagne, ils étaient cheminots, certes, mais ils pouvaient être aussi juifs ou résistants, arrêtés et déportés. Il y a les prisonniers de guerre dont nous venons de parler, et puis au même titre que tous les autres Français, les cheminots étaient également mobilisés par les Allemands pour le fameux STO, on rappelle en deux mots, ce que ça signifie, le STO.
Donc, le service du travail obligatoire qui touche les jeunes hommes et parfois les jeunes femmes, donc nés fin 1919, 1920, 1921 et 1922. Donc, toutes ces générations étaient envoyées pour travailler en Allemagne au service des Allemands. Dans le cas des cheminots, ce sont plusieurs dizaines de milliers qui sont partis travailler principalement à la Reichsbahn, donc dans les chemins de fer allemands.
Et puis il y a tous les cheminots qui vous ont confié avoir refusé, comme Robert Basquin, de travailler pour les Allemands. Robert, à l'époque, a 20 ans.
Déjà, j'ai été recensé peut-être au mois d'avril 1943 par la mairie. Et là, j'avais ma désignation pour aller travailler sur le mur de l'Atlantique, je ne sais plus où exactement. Bon, quand j'ai reçu ça, j'ai donné mon papier au bureau de la SNCF. Tout de suite, ils ont fait des démarches auprès des autorités pour que j'aille pas. Voilà, ils me réservaient un autre sort. Au mois de juin, là, ils me ratent pas, là. Hein. Oh, ben, j'ai le télégramme, là, que j'ai la dépêche. Là, voilà. Vous présentez 22 juin, quai 0, gare Paris-Nord, et signé Bourbonnais. Bourbonnais, c'était le chef de dépôt. Quand j'ai reçu, je devais déjà être parti. Le 21 à 12h25, ils m'ont envoyé ça. Moi, je suis parti le 18 juin, je crois. Et je ne voulais pas aller travailler pour les Allemands. Alors ça, c'était dans ma tête, ça. Hein. Alors, comment faire? Alors, j'avais pas de relation avec les résistants, j'avais pas de relation avec personne. C'est une décision personnelle, unique. Mais bon, il y en a 20 000 qui ont pensé comme moi cette année-là, puisque on s'est retrouvé à plus de 20 000 à passer les Pyrénées, hein, dans l'année. Et puis, il faut pas oublier que les Alliés, ils venaient de débarquer en Afrique du Nord. Donc, c'est à partir de là que beaucoup ont pensé comme moi, qu'il fallait essayer de rallier la France libre. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors quand j'en reviens à ça, où il y a eu le débarquement en novembre 42, Casablanca, l'Afrique du Nord venait d'être libérée. Donc je dis, plutôt que d'aller travailler dans un dépôt en Allemagne qui était bombardé par les Allemands, je risquais ma peau, je pouvais la risquer aussi bien avec mes idées contre les Allemands, voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé, j'ai dit, il faut que je m'en aille. Mais alors, ce cas, c'est que je n'avais personne pour m'aider, personne. Je suis parti tout seul. Il y en a des fois, ils sont partis à 3 ou 4, mais il n'y a jamais eu d'appel de personne pour qu'on s'en aille. C'était spontané, c'est une décision spontanée et personnelle. Mais on s'est trouvé à plus de 20 000 quand même à l'avoir eu l'idée. L'idée de passer par l'Espagne, oui, bien sûr. Je me souviendrai toujours de Gibraltar et Tanger, là, le détroit. On était en pleine nuit, ça. Je me souviendrai toujours, on est arrivé à Casablanca, je sais pas comment. On a bien mis deux jours pour aller. Oh oui, on a bien mis deux jours pour aller à Casablanca. Et alors là, le plus émouvant, c'est qu'en pleine mer, le matin du lendemain, il y avait deux torpilleurs français qui nous ont escortés et puis qui nous ont lancé un message de bienvenue par haut-parleur. Écoutez avec la Marseillaise, c'était émouvant.
Robert Basquin est arrêté et emprisonné par les soldats espagnols. Et après son arrestation, il va être libéré par la Croix-Rouge et emmené au Maroc, à Casablanca. C'est la France libre. Robert Basquin devient alors soldat dans la marine et il combat en Afrique du Nord, alors colonie française. Et c'est dans les colonies françaises que l'on trouve la CFA, la compagnie ferroviaire algérienne, filiale à l'époque de la SNCF. Écoutez la voix de Vincent Vermuseau. Il a fallu la guerre pour que Vincent commence à travailler à la SNCF.
Il a fallu la guerre, il a fallu que je sois projeté par un ami, un voisin, au chemin de fer, sans quoi c'était pas facile de trouver du travail. Et tout était bouché. Ce chef de bureau qui m'a fait rentrer, lui était au service de la voie. Il m'a fait rentrer dans son bureau, aux écritures, pour remplacer des agents qui étaient partis faire la guerre. Je transcrivais des lettres, je faisais des photocopiés, enfin, je faisais un travail de bureau. Et comme j'étais dans une vacance, de cheminots qui devaient un jour ou l'autre venir, c'était pas une situation durable. Le bruit a couru qu'on était titularisé tout de suite si j'allais travailler en gare à l'exploitation. Et j'ai été pris. Le jour, donc, j'étais au télégraphe et la nuit, j'étais dans le triage. J'ai tendu des billets pendant 2-3 ans. Il y avait deux guichets. Abdelkader, c'était un musulman. Il avait le guichet de gauche et le guichet, c'est moi qui tenais. Abdelkader était bien, il nous a invités une fois chez lui. C'était une gare de passage, la gare de Soukaras. C'était une gare importante. Il y avait trois directions, hein, direction Tébessa, direction la Tunisie, direction le nord, la mer, Beaune. Les Américains, ils passaient la nuit. Et c'était un train spatial qui arrivait à grande allure, qui partait à grande allure. Il fallait libérer toute la ligne d'un seul coup, hein, pour transporter les chars d'assaut. Et toutes les munitions. Des trains avec des wagons pleins de munitions, il en passait des quantités incroyables. Et des troupes aussi, des troupes. Il y a eu plusieurs morts du reste. Ces couillons, ils montaient sur les toits des wagons alors que la ligne électrifiée, il y avait du 90 000 volts au-dessus de leur tête. Il y a eu des soldats américains qui ont été foudroyés. Hein.
Vincent Vermuseau, cheminot en Algérie à l'époque française, théâtre de la reconquête de l'Europe, Cécile Auchard. C'est la grande histoire.
Oui, tout à fait. Après la libération de l'Afrique du Nord, le service militaire est rétabli donc en Algérie. Donc lui, il est mobilisé comme soldat dans un régiment de tirailleurs algérien et il va participer à la campagne d'Italie.
Ensuite, il débarque en Provence en août 1944 avec les troupes françaises et il sera blessé dans les Vosges, très grièvement, puisque c'est presque un an de convalescence qu'il passera avant de repartir en Algérie, donc en garde de Sougaras.
Alors, peu de témoignages dans l'exposition, bien sûr, sur cette dimension-là, c'est-à-dire sur l'expérience cheminote dans les anciennes colonies françaises.
Assez peu. On a présenté donc ce témoignage de Vincent Vermuseau parce qu'il était vraiment le plus fort et le plus complet sur le travail au chemin de fer algérien. Mais on a 5-6 témoignages, soit de cheminots ou d'épouses ou de descendants de cheminots qui étaient aussi en Tunisie et au Maroc. Donc ça fait aussi partie de cette collecte, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément au moment où on a commencé ce travail.
Merci Cécile Auchard. Je rappelle que l'exposition Voix cheminote est à découvrir aux Archives nationales sur le site de Pierre Fitte-sur-Seine jusqu'au 20 juin. Et je vous invite à écouter d'autres sons de cloche de ces voix cheminotes dans la chronique de Monica Fantini, Écoutez Paris, à retrouver sur rfi.fr.
Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte.
Voix cheminote, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani et préparée par Théa Olivier. N'hésitez pas à réagir à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur le Facebook de l'émission. Podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
Les pas vernis, reste le bec dans l'eau. Il y a toujours un passage à niveau.